Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'Opéra de Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, aujourd'hui autour des Enfants Terribles. C'était un roman de Jean Cocteau en 1929, c'était un film qu'il a co-scénarisé pour Jean-Pierre Melville une trentaine d'années plus tard, c'était un opéra une trentaine d'années plus tard encore, réalisé par Philippe Glass, et presque 30 ans plus tard, un petit peu moins, c'est à présent à l'Opéra de Rennes, notamment, qu'on pourra le découvrir dans votre mise en scène, Fia Ménard. Bonjour.
Bonjour.
Vous présenterez cet opéra du 14 au 20 novembre, mais il ira aussi se promener un petit peu partout en France et à Rennes. Certains de nos auditeurs vous connaissent, puisque depuis quelques années, vos pièces sont présentées notamment dans les saisons du TNB. On vous connaît donc pour vos talents de chorégraphe, de metteuse en scène, d'art plastique et de jonglerie. L'opéra, c'est une première pour vous, mais est-ce que c'est une forme qui finalement est si lointaine que cela pour vous ?
Alors déjà, ce n'est pas la première expérience d'opéra, hein. C'est la première que je peux réaliser ici, puisque j'ai déjà eu cette occasion à l'Opéra Comique à Paris, sur un projet qui s'appelait « Et in Arcadia Ego », autour des œuvres de Jean-Philippe Rameau. Est-ce que c'est si loin que ça ? Non, je pense que plutôt dans cette question, c'est que nous avons une telle habitude en France de séparer les genres artistiques et de vouloir les maintenir dans des étiquettes ou dans des cases très précises, qu'on n'imagine jamais que finalement le désir de l'artiste échappe à la question du genre. Donc d'arriver à un moment à une question, est-ce que je peux me retrouver face à un opéra et avoir le désir de le chorégraphier, de le mettre en scène, de le scénographier, pour moi, n'était même pas une question. C'était plutôt de dire, tiens, voilà, c'est l'œuvre qui fait la décision.
Et là, c'est l'œuvre, une envie des Enfants Terribles qui vous a amené à l'opéra, ou est-ce que c'est l'opéra qui est venu vous chercher et vous proposant ensuite les Enfants Terribles ?
C'est les deux, hein. Ce sont les deux, puisque voilà, ça fait déjà pas mal de temps qu'on me propose des mises en scène d'opéra ou des projets d'opéra que très régulièrement j'ai refusé pour beaucoup, non pas par désamour de la musique, mais beaucoup plus par manque d'intérêt pour le livret. Là, en l'occurrence, la rencontre s'est faite dans les deux sens. C'est-à-dire que, connaissant l'existence de cet opéra créé par Philippe Glass et Suzanne Marshall, j'avais finalement, moi, déjà une sorte d'amour pour la musique de Philippe Glass. Pas forcément pour le roman. Donc, le retour vers le roman, il se fait quand vous découvrez que Philippe Glass s'est intéressé à une œuvre et que, finalement, qu'est-ce qu'il en fait ? Donc c'est ça le chemin. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est une vraie envie et de l'opéra et de moi-même d'essayer d'en faire finalement une œuvre.
Alors que sont pour vous les Enfants Terribles de Jean Cocteau, mais vus par Philippe Glass pour la musique ? C'est une histoire étonnante, hein. On sort de confinement pour retrouver une histoire finalement de confinement où un enfant à l'origine chez Jean Cocteau est en tous les cas enfermé dans sa chambre. Son père, sa mère disparaissent assez rapidement de ses centres d'horizon. Il y a sa sœur qui vient le voir, puis deux amis un petit peu plus tard. Et c'est le monde de l'imaginaire, de tous les possibles qui va se développer. De toutes les passions, à l'extrême, de l'amour à la haine. Sauf que vous avez choisi de déplacer un petit peu au niveau des âges ces enfants terribles. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous et pourquoi cette envie des enfants terribles ? Outre ce que vous avez dit sur l'intérêt pour Philippe Glass.
Mais je pense que déjà, l'œuvre en elle-même, entre celle de Philippe Glass, qui est en effet tirée vraiment du film. C'est-à-dire que quand Philippe Glass réalise cette création, il se sert quasiment directement du film de Melville, qui pour moi perd déjà beaucoup par rapport au roman. Donc je dirais que dans l'œuvre qui m'intéresse, c'est de croiser beaucoup plus la puissance du roman de 1929 à l'écriture musicale de Philippe Glass. Ce qui veut dire que déjà, pour moi, dans le roman, c'est clairement dit, en 1929, c'est une histoire d'amour, entre une histoire d'amour dans la fraternité, dans une fratrie entre Elisabeth et Paul. Elisabeth est l'aînée de Paul, c'est une relation de frère et sœur, et en même temps, Paul est amoureux d'un garçon. On est en 1929, Cocteau parle de l'homosexualité. Déjà, pour moi, c'est déjà la base du sujet. La deuxième, c'est qu'en plus, dans cette histoire de, qu'on pourrait dire de confinement, mais que je pense beaucoup plus de reclusion, c'est-à-dire que dans Les Enfants Terribles, ce qui est la base, c'est qu'il joue finalement à détourner le réel. Il ne faut pas oublier qu'en 1929, on est dans la Grande Dépression. La Grande Dépression, on la connaît. C'est des correspondances qui sont assez dingues. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le monde qui se prépare à une énorme violence, ces deux enfants préfèrent vivre enfermés seuls et rester dans un monde où ils imaginent, ils transforment le réel et ils restent dans le monde de l'enfance, c'est-à-dire dans le monde de l'imaginaire. Pour moi, c'est une puissance incroyable parce que j'arrive à me reconnaître à cet endroit-là. Et puis, en effet, cette histoire où très vite on comprend que les histoires liées à la famille, les histoires liées à des rapports qui vont être ceux déjà d'une vraie question, comment la société fonctionne, comment la société française fonctionne, en tout cas la société occidentale, arrive aussi cette idée que, entre enfants, on se comprend et les autres personnages se comprennent. Que entre Dargelos, ce jeune garçon dont Paul est amoureux, qu'il ne va plus revoir, lorsqu'il revoit une fille qui finalement lui fait penser à Dargelos, il tombe amoureux de cette femme, mais il maintient le doute de dire finalement il aime qui ? Il aime un être humain, ce qui est encore pour moi une autre valeur incroyable à diffuser, de dire... on ne choisit pas d'être homosexuel, on ne choisit pas d'être hétéro. Par contre, on a l'amour. Et l'amour, ça, c'est une question qu'on ne peut pas résoudre comme ça. C'est plus fort que nous, quoi. Donc, il y a tout ça. Et puis, cette relation, finalement, à la fin, puisque c'est quand même un drame, c'est une tragédie, ça se finit par des morts, ça se finit par... Donc, il y a quelque chose, pour moi, qui est resté, qui a traversé les siècles. Et c'est vrai que je le décale. Je le décale déjà parce que finalement, j'ai 51 ans, je vois ma famille, mes grands-parents sont morts maintenant, mais je vois mes parents vieillir, je vois donc beaucoup plus de personnes âgées, et je vois aussi quelque chose de la ressemblance des corps en vieillissant, c'est-à-dire on sent que de plus en plus le corps de l'homme et le corps de la femme et le corps de l'homme, dans la vieillesse, il y a quand même des choses qui les ramènent à un même endroit, hein. On retrouve le retour à l'adolescence. Et
alors parfois malgré eux, puisque on sait que dans certaines personnes parfois s'adressent aux personnes âgées comme à des enfants.
Oui, mais sauf que moi je le prends bien sûr d'une manière assez brute en disant ce qui m'intéresse c'est de dire que c'est pas parce qu'on est dans le troisième âge qu'on n'aime pas. Et qu'on ne peut pas être dans la passion et pas tomber amoureux.
Ouais, et ça c'est un autre tabou, enfin en tout cas c'est assez compliqué dans les familles quand ça se passe.
C'est très compliqué parce que on n'imagine pas son père et sa mère finalement les voir agir comme on a agi. Donc c'est une chose qui nous insupporte. Mais je pense que c'est toute la question du manque de travail que nous faisons sur la société et d'accepter que l'être humain est une personne qui finalement n'a pas décidé grand-chose à la base en arrivant sur Terre. Et qui, par contre, après, essaye de trouver quoi ? L'apaisement. L'apaisement, face à une question qui est essentielle, c'est la mort. Et le sujet même du livre, c'est la mort. Donc, c'est aussi pour ça que, pour moi, j'ai décidé de le décaler en disant, la chambre est en fait une chambre d'une maison de retraite. Et que ce frère et cette sœur, qui sont les deux protagonistes principaux, et même Elisabeth plus que Paul, sont vraiment dans ce moment où, de toute façon, ils ont vécu toute leur vie un rapport avec l'autre. Et tout le monde le fait. Et tout le monde est, et sans arrêt, quand je questionne les personnes sur les relations avec leurs frères, avec leurs sœurs dans le vieillissement, je vois bien que c'est très, très complexe. C'est la plus grande histoire et la plus complexe. C'est celle qui voudrait de grand amour et qui n'est pas de grand amour. C'est celle qui repose des questions essentielles mais qui sont très difficiles à traiter. Donc c'est pour ça aussi que ce sujet m'intéresse.
Alors, sauf qu'en choisissant ces corps-là de personnes plus âgées que les enfants, les adolescents chez Cocteau, en quoi ça change alors soit la perception des spectateurs, soit vous, votre manière de faire se mouvoir les corps en scène. Même si Paul, il est quand même dans un état où de toute façon, il a son corps qui est un peu contraint et limité dans ses déplacements.
Bon, déjà, il faut imaginer, c'est que partant d'une partition donc de l'œuvre de Philip Glass, cette œuvre a été composée donc avec Suzanne Marshall, qui est une chorégraphe new-yorkaise. Ça a été vraiment l'idée d'un opéra chorégraphique, ce qui est une méthode très américaine. Ce que je veux dire, on n'est pas loin de la comédie musicale. Donc, c'est traité d'une façon comme ça. Pour moi, les Américains peuvent le faire, notamment parce qu'ils le chantaient en français et que finalement, l'auditoire n'écoutait pas forcément le texte. On avait une transcription. Donc, on regardait plutôt la forme. Moi, je sais que c'est l'inverse. Le chant, là, on le comprend et on s'y attache. Donc, ça veut dire que déjà et d'une, il faut que ce soit bien chanté, sachant que c'est difficile. C'est une composition très difficile. Les chanteurs ont besoin de travailler vraiment, c'est très compliqué. Mais par contre, une des forces, c'est que bah, comme ils peuvent comprendre parfaitement le texte, ils en ont une interprétation qui est beaucoup plus juste. Et notamment, c'est là où je prends le pied d'un autre de mes travaux, c'est la scénographie, et de dire, eh bien, pour respecter tout ça, respecter aussi la chorégraphie, eh bien, c'est la scénographie qui va faire la chorégraphie. Et donc, qui va avoir cette possibilité de créer le mouvement, de créer cette folie qu'on voit apparaître dedans. Et je dirais, c'est aussi l'endroit qui me permet d'un seul coup de dire, bah oui, ce sont des personnes âgées. Dans ce cas-là, c'est plutôt le décor qui se déplace plutôt qu'eux. Et ce qui nous donne un registre assez intéressant.
Oui, parce que nous sommes à côté d'une maquette présentant, parce que vous êtes en phase de travail, donc présentant ce que va être la scène. Alors, c'est une grande chambre hein, d'un EHPAD que vous avez choisi, puisqu'ils sont, alors je ne l'ai pas dit, on y viendra dans un instant, mais il y a quatre interprètes plus trois pianos et pianistes.
Et un narrateur.
Et il y a trois cercles. Les pianos et pianistes sont sur le cercle extérieur. C'était ça, voilà, l'idée qui vous a fait faire en sorte de faire trois cercles qui vont bouger et qui vont faire basculer peut-être vers le sentiment de folie.
Alors, c'est sûr que de toute façon, la spirale de l'œuvre m'indiquait scénographiquement que ça devait être une forme de spirale. En plus, c'est un motif que j'adore. Je veux dire, la spirale, moi je viens du cirque, elle part donc sans arrêt de cette relation au cercle, et je crois que c'est une forme très intéressante. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, en prenant trois cercles qui peuvent tourner, qui peuvent changer de sens, c'est une indication aussi sans arrêt de créer une relation, notamment par exemple, puisque vous parlez des pianistes, qu'est-ce qui nous fascine chez le pianiste ? C'est pas de regarder le piano, c'est de regarder ses mains. Toute la question est-ce qu'il faut aller mettre une caméra pour filmer les mains, pour regarder les mains ? Comme j'ai un très gros problème avec la question de l'image vidéo, avec tout ça, que j'ai pas du tout envie d'amener cet objet-là, j'ai besoin de montrer les mains du pianiste. Alors, ben, montrer les mains du pianiste, soit le spectateur se déplace, soit les pianistes se déplacent vers le spectateur, ce qui est quand même plus intéressant. Et donc, tout de suite, ce sont des réponses qui se donnent pour moi de dire, ben voilà, à quel moment il faut montrer telle chose, à quel moment on peut créer aussi une relation finalement de trouble, une relation de perte de contrôle, d'équilibre. Et je crois que c'est aussi vraiment la façon dont je cherche sans arrêt le sens. C'est, j'ai besoin de me dire à quel endroit la personne qui va regarder n'est pas en train de se demander, mais en train de vivre l'événement. Et notamment dans la musique. Je veux dire, les musiques comme celle de Philip Glass, que beaucoup, beaucoup connaissent ou qu'on a entendues, dont on n'a pas forcément prêté attention, mais on sait que ce sont des très, très belles musiques.
Musique, alors c'est l'un des rois de la musique répétitive et qui a été très souvent utilisé dans la pop culture, la publicité, les films, etc.
Exactement. Donc, on en a une perception. Donc déjà, pour moi, c'est un élément très important et qu'il faut laisser une place au spectateur. Pour moi, c'est toujours la règle d'or et c'est la règle absolue. C'est lorsque même dans une œuvre comme celle-ci, très narrative, à quel endroit je laisse la possibilité au spectateur d'être dans la pièce avec les interprètes.
Donc, d'être vous lui donnez un bout de la folie ?
Je crois surtout de ne pas la redouter par une question qui serait simplement la peur, mais de savoir la questionner. Je pense que dans ce rapport que nous avons entre peur, espoir, parce qu'ils sont assez intimement liés, c'est-à-dire entre la peur de devenir fou et l'espoir de ne pas devenir fou, y a quelque chose quand même de l'expérience, parce que l'expérience du théâtre est une expérience qui est fausse. Et c'est bien parce que le théâtre existe que l'on peut interroger la folie. Donc il y a bien à l'endroit de cette expérience la possibilité que le spectateur puisse lui-même vivre un bout de cette expérience sans le danger de la vraie folie.
Juste pour être très clair, pour que les auditeurs comprennent bien, quand vous dites, Fiaménard, le théâtre, c'est l'expérience du faux, c'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas pour de vrai, on sait que c'est un peu le « il était une fois » quand on rentre sur scène.
Oui, bien sûr, mais c'est la fonction, je dirais presque première du théâtre. On vient au théâtre pour voir des histoires, on raconte des histoires. Moi, je prends l'objet et l'espace du théâtre comme un endroit où on vient vivre des histoires, mais comme on a une relation de dialogue sur des sujets dont on sait qu'on va ressortir. Donc c'est une relation extrêmement importante, c'est celle de questionner l'imaginaire, c'est celle d'accepter que dans la société, il doit y avoir une place pour le rêve, et pas le rêve dans le sens idyllique, mais dans toute la possibilité que nous avons de re-questionner ce que nous sommes, de se re-questionner le monde, et bien au-delà de ça, c'est-à-dire re-questionner le vivant, parce que c'est aussi toutes ces matières-là, et c'est pour ça que je mets toujours le mot théâtre dans le sens espace, mais qu'il soit un chapiteau ou qu'il soit un opéra, pour moi, c'est un lieu de représentation et ce que je nomme en général comme une caverne, c'est-à-dire ce rapport à la grotte où l'être humain, depuis le début de l'humanité, a trouvé justement la possibilité de se questionner sur l'humanité parce qu'il rentre dans un espace et que dans cet espace, il y fait un acte à l'abri des regards généralisé pour pouvoir questionner d'une manière dédramatisée. Ce qui est bien, c'est d'ailleurs assez étonnant, puisque c'est là où le drama se passe. Mais c'est parce qu'il se passe le drama qu'on arrive à le dédramatiser. Et ça, c'est la puissance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des puissances les plus fortes. C'est celle qui nous permet encore de ne pas désespérer.
Et alors, dans ce cas-là, la fonction que vous accordez à la musique, quelle est-elle ? Parce que la musique, elle vient aussi apporter un trouble dans ce rapport à la réalité et à l'imaginaire. Et elle porte en elle-même un imaginaire qui peut être un tout petit peu différent ou en tous les cas souligner autrement le texte et le propos.
Alors, c'est toujours cette même question, notamment dans une œuvre musicale comme ça qui est majeure. Je veux dire, on pourrait se passer totalement des chants. J'ai même à un moment, je me suis dit, mais c'est fou, cette œuvre, on pourrait très bien avoir non pas des chanteurs, et certainement la pensée qu'ils ont eue au début, c'est d'avoir juste des corps, peut-être d'avoir des surtitres, et d'avoir juste la musique. Et ça aurait été assez radical, assez beau. Je suis assez convaincu, je le ferai sûrement.
Bah comme ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les Américains l'ont découvert en français, donc ceux qui ne voulaient pas lire les surtitres pouvait ne pas les lire.
Exactement. Donc l'œuvre musicale elle-même, c'est celle qui sert complètement de base, ce qui fait mes choix de mise en scène d'ailleurs, en me disant, bah, à ce moment-là, je sais que moi, quand j'entends ça, je me mets à rêver d'autre chose. Je pars dans mes pensées. Et donc j'essaye sans arrêt de me dire à quel endroit je vais pouvoir offrir au spectateur la possibilité de suivre l'histoire et en même temps d'avoir la possibilité de partir. Et d'être ailleurs, puis de raccrocher d'un seul coup, tac, ah oui, on revient. C'est peut-être notre forme d'humilité qu'il faut absolument questionner dans cet endroit-là. C'est de ne pas dire nous avons la réponse, nous avons les solutions, mais complètement la possibilité de dire c'est dans notre imaginaire que l'apaisement est le plus beau et que la paix vient du rêve. Pas d'autre chose. Et cette paix-là, c'est celle à laquelle on aspire. Donc, depuis quelque temps, je repense, j'ai lu, notamment, je suis beaucoup, il y a un indigène Yanomami, qui est aussi un chaman, qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle La chute du ciel avec l'anthropologue Bruce Albert. Et dans La chute du ciel, c'est vraiment un indien Yanomami qui nous parle de la société des Blancs et qui dit le peuple des Blancs, le peuple de la marchandise. Et il dit comme ça, c'est incroyable, indéniablement vous avez une ingéniosité incroyable. Mais qu'est-ce que vous passez votre temps à vous regarder le nombril et ne pas faire confiance à vos rêves et à dialoguer avec vos rêves lointains. Je trouve que c'est une des choses les plus intéressantes que j'ai entendues de ces dernières années, des plus belles qui me raccrochent à dire sans arrêt, je sais pourquoi je fais, alors ou en tout cas j'essaie de faire de l'art.
Une ode au rêve, donc, votre proposition, Fiaménard. Et puis, je l'ai dit, c'est un opéra qui est ramassé au niveau de l'effectif, puisqu'il y a quatre interprètes chanteurs, un narrateur et trois pianistes. Vous avez décidé de mettre tout le monde sur la scène en même temps. Qu'est-ce que cet effectif, finalement, voilà, qu'en avez-vous fait dans votre propre mise en scène, puisqu'on voit aussi bien les instrumentistes que les interprètes, ce qui dans l'opéra n'est pas toujours le cas, puisque parfois les instrumentistes sont planqués sous la scène.
Oui, alors en effet, c'est vraiment un petit effectif, ce qui donne d'ailleurs une possibilité, comme vous disiez, de tourner, ce qui est vraiment un...
Quimper et bien d'autres villes en France.
Oui, oui, et puis jusqu'en Belgique aussi, avec des projets aussi européens qui sont en train de se monter. Donc ça veut bien dire que c'est aussi peut-être le meilleur moment pour monter un projet d'opéra qui ait la possibilité de se déplacer avec moindre coût. C'est aussi une forme dedans, quand on a finalement quatre chanteurs, trois pianos, vous avez sans arrêt envie de dire ben pourquoi je mettrai les pianistes de côté et que je verrai que les chanteurs. Pourquoi y a un moment où d'un seul coup vous dites mais la forme de la mise en scène est très souvent contrainte pour des contraintes qui sont pas du tout intéressantes, pas du tout nécessaires. Il suffit juste de encore une nouvelle fois de dire mais ces trois pianistes, moi j'ai besoin de les voir, mais les spectateurs ont besoin de les voir, ils vont vouloir les voir parce que la musique est tellement belle qu'ils vont sans arrêt avoir envie de les voir. Alors moi je les vois, des fois on les verra pas, des fois ils réapparaissent. Les chanteurs apparaissent, disparaissent, on en fait un jeu. Bon là, en effet, devant la maquette que nous voyons, il n'y a qu'une partie de la deuxième partie de l'œuvre, alors que la première partie va être beaucoup plus intime.
Il y a moins de monde, il n'y a que Paul et puis Elisabeth. Hein,
non, ils sont là, tout le monde est là, mais on passe quand même du statut d'une petite chambre de maison de retraite à d'un seul coup, ils héritent quand même ce qui arrive, hein, ils héritent carrément d'un palais. Quoi. Ouais. Donc le palais, après la question, c'est que ce palais, et je pense que c'est un petit peu une vraie raison, ce palais dont on rêve, finalement quand ils arrivent dedans, c'est trop grand, en fait. C'est un rêve. Et là, encore une nouvelle fois, c'est un rêve de richesse. Mais finalement, et c'est ce que dit très bien, d'ailleurs, je trouve, Cocteau, la richesse, elle n'est pas dans le matériel. La richesse, elle est dans le vivant, dans le dialogue des vivants. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en effet, quand on arrive dans cette immense maison, au final, ils finissent tous par se coller dans une pièce et vivent tous dans la même pièce parce qu'ils ont besoin de vivre ensemble. Et voilà, c'est-à-dire c'est aussi une vraie question de société, c'est-à-dire que dedans, on peut reposer, aujourd'hui on le voit bien, 2003, qu'est-ce qu'on a appris de 2003, de la canicule de 2003? C'est que, en effet, la séparation que nous avions avec les personnes âgées faisait qu'ils étaient morts dans des petites maisons de retraite qui n'étaient pas du tout adaptées, et le Covid a ramené encore plus ça. Le Covid a ramené en plus de dire on a eu des gens qui sont morts et qui n'ont même pas pu être accompagnés, tout ça. Donc, je veux dire, on repense d'un seul coup à quel endroit aussi notre modernité et notre impression que la modernité résout ce que nous sommes, eh bien, repose une autre question, c'est que non, on a envie d'être accompagné. Il n'y a rien de pire que de mourir seul. Le combattant qui meurt sur un champ de bataille ne meurt pas seul, il meurt avec d'autres. Donc il y a toutes ces raisons qui prêtent à dire qu'en effet, quand je pense à une scénographie comme celle-ci et que l'œuvre me touche en me disant oui, en effet, on hérite d'un palais, je suis sûr qu'on finit par vivre dans la même pièce. parce qu'on n'est pas du tout fait pour avoir un palais. C'est juste, le palais est juste la démonstration de notre manque d'humilité.
Voilà, à hauteur d'homme et d'humain que vous avez donc conduit cette mise en scène des enfants terribles d'après l'histoire de Jean Cocteau, cet opéra de Philippe Glass et Céline Michel que vous présenterez notamment à Rennes du 14 au 20 novembre, Fiaménard. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Opéra de Rennes.